grâce avant de commencer. Christ Jésus, merci de nous interpeller par ta parole. Au-delà de la vérité, c'est vrai qu'en elle, nous avons aussi accès à cette vie éternelle. Tu es parole de Dieu. Te bénir ce matin, de pouvoir être dans cette attitude de cœur, d'esprit, d'ouverture. Accompagne ta parole par ton esprit, par la compréhension de celui que tu es, ensemble de bénissant ton nom. Amen. Alors je vous propose un texte toute finale de la Bible, Apocalypse au chapitre 22. On va juste lire le verset 20. Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est juste quelques mots. Quelques mots qui ont pris pour moi, alors je dis, bon, ça n'a pas révolutionné ma vie, hein, mais quoique, ça fait pas mal d'années que je travaille l'écriture, entre autres le livre de l'Apocalypse, je l'ai repris tous ces derniers temps. J'essaye de le prendre en détail par plusieurs biais possibles. Il y a autant de points de vue sur l'Apocalypse qu'il y a de théologiens, de conférenciers, de spécialistes de la Bible. Donc voilà, tout ça dans un cadre un petit peu plus grand. Là, je viens de retravailler en détail le livre de Daniel, le livre de Malachie, je suis en train de faire Ésaïe, et puis en parallèle, voilà, je travaille tout ce qui est christologie, Christ dans les Écritures, je crois que c'est un peu le centre, en tous les cas, moi, de ma pensée, comment découvrir Christ dans l'Écriture, comment comprendre cette présence. Je vous relis ce petit verset. « Celui qui atteste ces choses, c'est-à-dire le Christ Jésus, dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Est-ce que vous seriez prêt à en faire une confession, une proclamation, un témoignage? On va voir, je ne ferai pas tout ce matin, hein, c'est un thème qui est très grand, ça recouvre tout ce qu'on appelle l'eschatologie, les derniers temps, les temps de la fin du monde. J'aime pas trop ces expressions. On verra, je préfère le... Voilà, moi, je travaille ce qu'on appelle le temps des nations. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Le Christ a été promis, c'est toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il est venu une première fois. Il a surpris son monde. Tout le monde religieux, politique de l'époque, comme on dit, ils n'ont rien vu, ils ont laissé passer. Il n'y a que quelques disciples. Tout d'abord les 12, les 120 dans la chambre haute, et puis quelques milliers de disciples. Puis aussitôt après, tout le monde a été dispersé. Le christianisme a mis quelques siècles à se développer dans l'Empire romain. Et puis depuis, on enseigne l'eschatologie, les temps de la fin, la deuxième venue de Jésus. Quand on lit ce texte, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Il s'agit de la deuxième venue de Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce que l'on dit nous aussi Amen ce matin? Peut-être le dire, parce que si on le dit, ça engage. C'est un des derniers versets de l'Écriture. Après, il y a juste que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est la clôture de toute l'Écriture. Ça veut dire que toute la révélation sur le Christ Jésus, la promesse de sa venue, la première et la deuxième venue, tout est dans ce petit texte. Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, c'est hébreu, il y a ce mot aussi, Maranatha. Viens, viens, reviens. J'aimerais lire un texte avec vous dans Luc, au chapitre 22. C'est le moment où Jésus va quitter les siens. Luc 22, les versets 15 à 18, 14 à 18. L'heure étant venue. Toutes les promesses, toute la première venue de Jésus est résumée avec ce moment, cette heure. L'heure étant venue, il se mit à table, les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Bientôt, on reprendra le pain et le vin. Voilà, notre relation avec Christ, elle vient de l'Esprit-Saint, de la parole. Voilà, même si c'est important de partager le pain et le vin, c'est important, je crois qu'on a entendu ce matin, d'être en relation d'intimité au quotidien avec le Seigneur. On avait ce texte, je ne la prendrai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu revienne. Quand on dit Amen, viens Seigneur Jésus, on appelle donc cette deuxième venue et ce jour où tous les saints de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, on sera réunis pour le festin des noces de l'agneau. Et un jour, Jésus inaugurera un nouveau temps, un nouveau moment de la création de l'histoire de l'homme au travers d'un nouveau repas. Ce sera plus grandiose que simplement partager le pain et le vin dans cette église de Kévin ou dans toutes les autres églises sur terre. C'est un repas symbolique. On partage ici un petit peu de jus de raisin, un petit morceau de pain. Prochain repas avec le Seigneur, ce sera un festin. Festin des noces de l'agneau. Mais quelque chose que même, voilà, j'ai beaucoup d'imagination, mais même là, je n'arrive pas à imaginer ce que ce sera. On voit qu'aujourd'hui, hein, la privation de relation, on est déjà en train de mettre en garde tout le monde. Attention, à Noël, faites attention. On regardait les infos avec Catherine hier soir, et puis on voyait des gens qui sont en train de réaménager leur terrasse pour faire le repas de Noël en extérieur, pour pouvoir inviter les parents âgés. Après, 70 balais, 80 balais, je ne sais pas si manger dehors le soir de Noël, ça va être confortable. Il y a des gens qui ont même acheté ces chaufferettes pour avoir une terrasse chauffée, installer l'électricité, là ils ont besoin d'électricien. Il y a tout un dispositif. Les gens, tout le monde a l'impression d'être privé. Dans certains coins, on fait des fêtes clandestines. Les médias s'en sont fait l'écho. À un endroit, ils étaient 300 dans un truc désaffecté. Et puis, ils se sont fait penser. Prochain repas de Christ, repas, ce sera le repas, le festin des noces de l'agneau. On partage ensemble 1 Corinthiens 11, c'est le texte traditionnel qu'on lit pour le partage du pain et du vin. 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on partage le repas du Seigneur, c'est un repas mémoriel. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Dire amen à une prière, dire amen à un texte de l'Écriture, c'est lourd de sens. Le mot amen, ça veut dire c'est vrai, c'est certain, c'est sûr, c'est ferme. C'est une promesse faite avec serment. Dire amen, c'est dire oui, c'est la vérité. En langage moderne d'aujourd'hui, on dirait ok, d'accord, ça marche. De dire amen, viens Seigneur Jésus, c'est une proclamation, une confession qui nous engage chacun. Je ne sais pas quelle est votre appréciation du temps de l'histoire que nous vivons. Moi, je trouve passionnant. J'aime la géopolitique. Donc là, toutes les semaines, il y a des nouveautés dans tous les pays. Et puis, j'essaie de suivre l'actualité, ce qui se passe en Éthiopie, ce qui se passe entre les Arméniens, le Karabakh, etc. Enfin, voilà, l'actualité est suffisamment riche pour... L'horloge de Dieu, elle est où ? J'avais été marqué, gros cahier de prières, de paroles prophétiques que ma mère a noté pendant pratiquement toute sa vie chrétienne. Elle a partagé sa foi pendant une dizaine d'années avec une demi-douzaine de personnes âgées qui ont prié pour moi pendant plus de 10 ans, des dames qui avaient entre 70 et 92 ans. Deuxième parole prophétique que j'ai reçue, c'était une de ces dames-là qui avait 92 ans, qui était pied noir, qui s'est convertie en Algérie. Et une de ces dames avait donné une parole prophétique. Vos enfants seront les témoins de la dernière heure. Bon, je ne sais pas si ma génération, parce que je me sens concerné, je ne sais pas si c'est ma génération qui verra le retour du Seigneur. Là aussi, on est prudent. L'Écriture dit, seul le Père, c'est le jour, la date et l'heure. Donc on ne va pas jouer au plus malin puis essayer de deviner. Après, voilà, on partageait avec Rémi en début de culte. C'est vrai que voilà, le monde est inquiétant. Guerres n'ont pas cessé, les pandémies n'ont pas cessé, les catastrophes n'ont pas cessé. Et puis, dans 50 ans, pratiquement toutes les réserves naturelles seront toutes les terres rares, l'eau. Enfin, voilà, je ne vous fais pas un dessin. Je crois que là aussi, c'est toutes les semaines dans les médias, un jour. Mais ce n'est pas ce constat-là qui est suffisant pour avoir envie de dire. Viens Seigneur Jésus. Je pense que d'avoir cette rencontre d'intimité dont on a entendu parler ce matin, tout d'un coup, c'est avoir envie de rencontrer celui qu'on aime. Comment est-ce que Christ peut grandir à ce point-là, qu'il nous devienne plus cher que notre propre vie, que la vie du conjoint, de nos enfants, de... Je vous rappelle cette parole de Jésus, hein, celui qui aime sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi. C'est une parole qui n'est pas facile à vivre. Hein. comment est-ce que l'on garde la relation de génération avec ses parents intergénérationnels, mais sans être esclave, sans être dépendant, sans être... Je me rappelle la première fois, j'étais jeune chrétien, juste quelques mois, juste avant mon baptême, Pasteur Jackson qui m'a baptisé, c'était un Écossais, qui était à l'âge de la retraite. Voilà, il avait annoncé l'écriture, il avait cité cette parole. Et puis moi, j'avais hâte que le culte finisse, je ne sais plus pourquoi. Moi, j'étais souvent fourré chez ma sœur. On avait 20 ans d'écart, c'était presque une seconde mère pour moi, et c'est vrai que voilà, j'étais toujours fourré chez elle. Je cuisinais bien, c'était sympa. Et ce jour-là, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, mais dans tes relations humaines, qu'est-ce qui compte le plus? Bon, j'étais chrétien fraîchement débarqué sur la planète. Mais combien de temps il nous faut pour que Jésus devienne plus grand, plus élevé, plus cher, plus amoureux que notre propre famille, parents, enfants, conjoints, famille, non pas se détacher pour moins bien les aimer, mais pour les aimer d'une autre, sûrement d'une autre manière. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Toi que j'aime plus, au-delà, de manière plus intense, différente, que régulièrement, hein, c'est chez Jean ou chez Paul, où il dit, hein, c'est pas la chair et le sang qui sont importants, qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Comment est-ce que le Dieu qui est dans les cieux peut devenir plus consistant, plus profond, plus intérieur que voilà, cette vie qui est autour de nous. On a lu un texte qui est pratiquement la finale de l'écriture. Dans l'écriture, il y a beaucoup de cycles. Je vous lis comment termine le cycle de la Genèse, chapitre 50, verset 24. On va lire un petit peu la fin de tous les cycles qui sont dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Quand on dit « Amen, viens Seigneur Jésus », ça sera la fin de quelque chose. Le début, il est avant que tout commence. Le Christ n'a pas été créé. Mais il y a des choses qui ont eu un début, une fin. Et à la fin de la Genèse, chapitre 50, verset 24 dit, Joseph dit à ses frères, je veux mourir. Mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. L'Écriture dit qu'ils sont restés, je ne sais plus, 430 ans là en Égypte. Et puis à un moment donné, l'oppression était tellement forte qu'il a fallu que Dieu agisse à main forte pour sortir ce pays d'Égypte. On lit la fin d'un autre cycle dans le livre des Juges, le verset que Jean-Marc cite souvent. Juges au chapitre 21, le dernier verset, le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ah, ça ressemble un peu à aujourd'hui. Les chrétiens, les hommes, les femmes spirituelles sont en minorité. C'est un Christ caché au travers de l'Église. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de chef. Waouh, ça c'est bien, hein. En ce moment, les chefs ont une mauvaise réputation. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On lit un autre texte, c'est la fin aussi de tout un autre cycle dans les chroniques. Au chapitre 36, ça va être la fin des chroniques. Deux chroniques, chapitre 36, c'est le verset 23, c'est le tout dernier. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. On a vu la fin de la Genèse. Je disais, je vous ferai monter. Montez dans ce pays extraordinaire. Prenez tous mes os, ma carcasse avec vous et puis enterrez-moi dans le pays promis. Et puis, voilà, vous savez, je ne fais pas une leçon. Hein. Toutes les sociétés, les civilisations ont un moment de départ, un commencement, une apogée, le moment où c'est le plus extraordinaire. Et puis après, c'est une descente. J'ai deux, trois revues à la maison qui parlent de toutes ces civilisations. On sait aujourd'hui par l'archéologie qu'elles ont existé. Mais qui ont disparu. La nôtre disparaîtra aussi. Et quand on confesse, Amen, viens Seigneur Jésus, on appelle la fin d'une histoire. Parce qu'il y a des choses qui ne pourront pas perdurer en l'état. L'apogée d'Israël, David, Salomon, et puis après, ça a été, si vous étudiez l'histoire des rois, pour cinq, où il est dit, ah, il fit tout ce qu'il y a de bien, comme son père David. Et puis, on a 15, ils font tout de travers. Moins 720 avant notre ère, tout le royaume du nord, les 10 tribus détruites, exil. Centaines d'années après, moins 586, le roi de Babylone qui descend, il casse tout. Le temple, Jérusalem, deuxième exil. Et puis là, il y a pratiquement 400 à 500 ans de silence de Dieu. Dans le livre du prophète Malachie, pareil, on va lire le dernier verset, ou presque. Malachie chapitre 3, les cinq premiers versets. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors l'offrande de Juda, de Jérusalem, sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas encore été consumés. Confessez, proclamez. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est appelé quelque chose qui est difficile à définir, qui s'appelle le jour de l'Éternel, le jour de Yahweh, le jour du Seigneur Jésus. Quand on lit ce qu'est ce jour, est-ce qu'on a envie d'y être ? Les noces de l'agneau, ouais, un bon repas, quelque chose de festif, de cosmique, d'extraordinaire qui va dépasser tout ce qu'est l'imagination. Par contre, est-ce qu'on a envie d'être présent au jour de l'Éternel ? On va lire, hein, qu'est-ce que va être ce jour. Il y a 20, 30, 40 fois ce jour dans les prophètes. Quand on lit le contenu, ce qui va se passer ce jour-là, il faut être solide dans sa foi. Rencontrer Dieu en esprit, en vérité, il y a des moments dans ma vie où je peux vous dire que la pression de l'Esprit Saint peut être quelque chose qui descend jusque dans les pieds. Puis on se dit, ouh, ne fais pas trop le malin, et dans tes choix, comprends bien quels sont les enjeux, comprends bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il parlait d'un jour de jugement et de colère. Peut-être une vision de Dieu qui nous est un peu étrangère. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. À la croix, le Christ nous a réconciliés avec le Père. Tout le temps des nations. Le temps des nations commence quand Jérusalem est détruite, 5e siècle avant notre ère. Le temps des nations n'est pas fini. Il y a un jour où les nations seront jugées. Ce ne sera pas le jour du grand pardon. Quand on lit tous les textes, on se dit « Waouh !» Ça serre les reins. C'est-à-dire que c'est quelque chose de solennel, de dur. Toute cette histoire de temps de la fin, fin du monde, temps des nations, c'est un domaine compliqué. C'est-à-dire que ça explose parfois un petit peu en plein vol. Surtout du côté des Américains, là, ils ont des visions. J'essaye d'avoir une approche pluridisciplinaire par plusieurs côtés. Bon, j'ai pas toutes les. L'important, c'est d'être en communion, en intimité avec Jésus. Après, voilà. L'Esprit de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, c'est eux qui vont gérer tout ça. Ça me décharge, c'est pas à nous de juger les nations. Il y a des choses qu'on jugera. Mais voilà. Avoir envie du retour de Jésus, ça veut dire pour la création quelque chose d'extraordinaire. Paul dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Nous, création, voilà, en même temps, je me dis parfois, bon, depuis un peu plus de 40 ans, j'ai découvert l'écologie. Quand j'étais avec des musiciens, l'importance de protéger la terre. Je pense que notre société, notre civilisation n'en fait pas assez. Mais bon, voilà, je vis comme tout le monde, hein, j'ai une voiture, je consomme la terre, la création, la nature. Et en même temps, cette création, elle attend quelque chose de nouveau. Et quand je dis Amen, viens Seigneur Jésus, j'appelle aussi sur la création un temps de renouveau, quelque chose d'extraordinaire. Je pense que le Christ qui a créé les cieux et la terre a tout ce qu'il faut pour rénover la terre et puis démarrer quelque chose de nouveau. Tout l'Ancien Testament est rythmé par ces textes avec ses origines, ses commencements, et puis ces moments où société, civilisation, ouais, tout en haut, et puis à un moment donné où ça se passe pas très bien. On voit qu'Israël en Canaan, finalement, il y a quoi, à peine un siècle, où les choses vont bien. Jésus est né aux environs de moins 4, parce qu'il y a des problèmes de calendrier. En l'an 27 de notre ère, il est mort sur la croix. Là aussi, c'est quelque chose de cosmique, quelque chose de nouveau à commencer. 2000 ans après, c'est quelque chose de nouveau qui nous touche encore. Mais entre-temps, Jérusalem a été détruite pratiquement deux fois. Une première fois par les Romains en l'an 70. Au niveau cruauté, je pense que les descriptions qu'on en a, pas grand-chose ici-bas, peuvent être pires que ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a un petit reste qui est resté à Jérusalem. 135 de notre ère, à nouveau, Bar Corba, quelqu'un qui s'est dit « c'est moi le Messie, c'est moi qui annonce le royaume de Dieu ». Et là, les Romains ont démoli tout ce qui restait et ont créé une ville nouvelle à la place de Jérusalem. Et pendant 2000 ans, les choses ont été 690 de notre ère, à l'emplacement du temple de Jérusalem, on a construit Mosquée d'Omar. Elle est toujours en place. Quand on confesse, quand on proclame Amen, viens Seigneur Jésus, ça a des conséquences. Des conséquences dans l'histoire des hommes. 1948, renaissance de l'État d'Israël. Poil à gratter des nations. Je vous laisse avec ce démarrage sur ce thème. On poursuivra d'autres fois. C'est un thème intéressant, que nous ayons conscience. Quand on partage le pain et le vin, quand on dit Maranatha, viens Seigneur Jésus, si on dit Amen, ça a des conséquences. Et je pense que c'est une confession qu'il faut que l'Église chrétienne aujourd'hui prenne à son compte. La création souffre. Paul dit les douleurs de l'enfantement, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. J'aime ce qui est nouveau. Voici, je fais toute chose nouvelle. Il fait toute chose nouvelle dans notre vie. Continuons de laisser le Seigneur agir dans nos vies. Continuons à faire des choses nouvelles en attendant que tout le reste soit changé. On partagera d'autres fois tout ce que Dieu veut faire de nouveau.